8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins. Amélie Beaucourt.
Ravie de vous retrouver dans 8 milliards de voisins pour cette émission consacrée aujourd'hui à l'épanouissement au travail. On ne se posait peut-être pas la question il y a 50 ans, mais depuis quelque temps, elle devient un critère lorsqu'on choisit son métier. Doit-on donner du sens à notre travail et que faire si on n'en trouve plus? La pandémie de Covid et ses conséquences directes sur nos emplois et nos conditions de travail ont en tout cas donné matière à réflexion. Si certains vont jusqu'à démissionner, d'autres ont adopté une stratégie différente. Rester en poste, oui, mais ne fournir aucun effort supplémentaire, se contenter du minimum syndical pour montrer son mécontentement et pour se préserver. C'est ce qu'on a appelé la démission silencieuse. Alors aujourd'hui, on se penche sur cette nouvelle dynamique. Que faire lorsque le travail nous rend malheureux? Comment faire de la place à sa vie privée, à sa vie de famille? Comment renégocier ses conditions de travail? Faut-il oser démissionner? Et en tant qu'entreprise, que peut-on mettre en place pour contenter ses salariés? Nous sommes en compagnie de la sociologue Maëlle Bigi, qui a co-écrit le livre « Travailler au XXIe siècle, des salariés en quête de reconnaissance » chez Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour.
Et avec nous également la coach Amandine Ruas, fondatrice de Be Your Best Self, une entreprise qui forme des particuliers et des entreprises. Bonjour.
Bonjour.
Be Your Best Self, qu'on pourrait traduire par devenir une meilleure version de soi-même, c'est ça?
Exactement.
Et en deuxième partie d'émission, dans une vingtaine de minutes, nous retrouverons la référence des ressources humaines de l'émission Agnella Vekwaku, en direct d'Abidjan, qui pourra également nous donner ses conseils. D'ici là, appelez-nous, racontez-nous comment vous vivez votre travail et en tant qu'employeur aussi, comment vous négociez avec vos salariés pour améliorer leurs conditions. Le numéro WhatsApp de l'émission, c'est le 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins et de voisines.
Et aujourd'hui, on dit quoi?
Alors un chiffre pour commencer, 4,3 millions de personnes ont démissionné en un mois. Ça, c'était à l'été 2021 aux États-Unis, au plus fort de cette vague qu'on a appelée The Big Quit, la grande démission qui a frappé le pays depuis le premier confinement. Quelques mois plus tard, on s'en souvient aussi, Beyoncé, icône R&B, qui dévoile le titre You Won't Break My Soul, qui incite les gens à quitter leur job s'il les rend malheureux. Sans compter les innombrables vidéos de TikTok qui circulent, les témoignages de personnes qui se font l'écho de ce ras-le-bol, énorme bulle médiatique. Mais les Igbiji, vous qui avez étudié ce phénomène, dites-nous, est-ce qu'il est si énorme, ce phénomène, est-ce qu'il est si énorme qu'il en a l'air? Et est-ce qu'il est intrinsèquement lié à la pandémie de Covid?
Alors, il est très médiatisé, mais je pense qu'il n'est pas si énorme que ça, puisque les chiffres dont on dispose concernent donc uniquement en fait les démissions. Donc, on a un nombre de démissions qui est très élevé, qui est plus élevé qu'avant, mais qui correspond au fait que la population en emploi augmente. Donc plus il y a de gens en emploi, plus il y a de gens qui peuvent démissionner. Et du coup, on a des taux de démission qui sont élevés, comme ils sont régulièrement élevés en sortie de crise. Donc ça correspond au
n'importe
fait que...
N'importe quelle crise.
Voilà, par exemple, la crise de 2008, on a des taux de démission qui sont comparables à la sortie de crise, donc 2021, 2022 pour la crise sanitaire. Et du coup, ça reflète plutôt en fait une forme de dynamisme du marché du travail à la sortie de la crise, des gens qui vont pouvoir quitter leur emploi actuel pour en trouver un autre. Et on a, par comparaison avec les États-Unis, on a très peu de gens qui quittent le marché du travail. En fait, c'est des gens qui vont retrouver à peu près dans les 6 mois, la plupart, un autre emploi. Donc, ils changent d'emploi plutôt qu'ils quittent le monde du travail.
Donc, on ne cesse pas son activité, quoi.
On ne cesse pas son activité. Et ensuite, en ce qui concerne la démission silencieuse, hein, qui est une autre façon de refuser l'investissement dans le travail ou de travailler différemment, là, les chiffres sont vraiment difficiles à obtenir, notamment parce que la définition de ce que c'est l'émission silencieuse est quand même assez difficile à établir. Et en plus, on aurait besoin d'un petit peu plus de recul pour avoir des chiffres à peu près fiables.
Et puis un employé ne va pas forcément se risquer à dire « non, je ne fais pas plus que ce qu'on me demande ».
Non. Après, on pourrait aussi le mesurer, par exemple, avec les horaires de travail. Mais là, on manque de recul pour pouvoir regarder vraiment les choses de ce côté-là.
Amandine Ruas, quelles sont les principales raisons, celles qui reviennent en tout cas le plus souvent, qui poussent un salarié aujourd'hui à démissionner?
Oui. Alors, moi, ce que j'entends revenir de la part de mes clients, c'est essentiellement la question du manque de sens. Trouver un sens à son travail, c'est-à-dire avoir l'impression que son travail contribue socialement, écologiquement ou même contribue à son propre développement. C'est surtout ça qui revient dans ce qui pousse les salariés à quitter leur emploi. Mais j'entends aussi de plus en plus revenir la question de l'épuisement professionnel. Après la reprise post-Covid, de nombreux salariés ont été frappés de plein fouet par une reprise très rapide qui a poussé de nombreuses personnes à remettre en question en fait, le rythme de travail de l'entreprise. Et puis le fait d'être passé aussi en télétravail a fait se poser des questions sur ce rythme qu'on avait auparavant en milieu professionnel.
Et c'est vrai pour toutes les catégories socio-professionnelles. Est-ce qu'il y a dans la hiérarchie certains employés, certains salariés qui démissionnent plus facilement que d'autres ? Est-ce qu'on démissionne plus chez les cadres que chez les ouvriers, par exemple ?
Oui, très clairement, moi je le vois. Hein, donc j'accompagne essentiellement l'épanouissement au travail et les reconversions professionnelles. Et je dirais que 95% de ma clientèle sont plutôt des profils cadres. Et j'observe vraiment que c'est d'une certaine façon ces profils-là, parce qu'ils savent qu'ils sont facilement employables, qu'ils peuvent retrouver plus facilement, parce que aussi financièrement, ils ont peut-être plus la possibilité de s'autoriser un écart dans leur trajectoire, vont davantage avoir l'opportunité de démissionner que des salariés, typiquement des employés ou de la population ouvrière.
Alors s'autoriser à démissionner, c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait particulier. Oui, Maëlle Sylvie.
Oui, je voulais ajouter en complément en fait que on a traditionnellement les cadres qui ont une meilleure employabilité, mais aussi là on a vu avec
meilleure employabilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent être employés plus facilement ensuite.
Mais les chiffres de la DARES ont aussi montré qu'en fait, dans les secteurs type restauration, hôtellerie, à la sortie de la crise, ces secteurs-là étaient très dynamiques. Et du coup, on a eu pas mal de démissions dans ces secteurs-là parce que, de manière conjoncturelle, le rapport de force était un tout petit peu inversé en faveur des salariés. Et du coup, on a eu pas mal de salariés dans ces secteurs qui ont démissionné pour renégocier des conditions de travail et d'emploi un petit peu meilleures et ont retrouvé dans la foulée, en fait, un emploi. Mais ça, c'est quelque chose qui change parce qu'on est en sortie de crise, mais qui est pas
qui va pas durer.
J'espère que ça va durer pour eux, mais ça s'inscrirait pas forcément dans une continuité, en tout cas.
Alors, on a reçu un message sur notre page Facebook de Anissé à Kinshasa, en RDC, qui nous dit « Avoir un travail dans lequel on s'épanouit n'est pas donné à tout le monde. La plupart des gens regardent plus le salaire que le sens de leur travail. Démissionner parce qu'on est plus motivé ou épanoui est un luxe que bon nombre de gens n'ont pas moyen de se le permettre. » Ça rejoint ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Amandine Ruas. Et on va parler justement d'émission avec Kadjaké. Vous êtes au téléphone avec nous. Bonjour Kadjaké.
Oui, bonjour madame.
Vous nous appelez de Lomé au Togo. Vous avez quitté justement votre emploi. Racontez-nous qu'est-ce que vous faisiez et pourquoi est-ce que vous êtes parti.
Merci madame. Moi je suis un différent industriel. Je travaille dans une société de la place ici à Lomé. Donc j'avais mon CDI et le visa de SASOF. Donc dans le travail, il y a la pression. Nous avions accepté tout ça et puis nous faisons notre devoir pour continuer le travail dans de bonnes conditions. Et à ça aussi, nous avions aussi réclamé nos droits pour qu'on puisse augmenter nos salaires, ce qui n'a pas été fait.
D'accord. Vous avez demandé une augmentation de salaire. Vous n'étiez pas suffisamment payé pour ce que vous faisiez. Et c'est suite à ça que vous avez démissionné, Kadjaké ?
Oui, parce que pourquoi j'ai démissionné ? Merci beaucoup, madame. En dépit de tout ce que je viens de dire, parlant de la pression, je vous donne un petit exemple. Un jour, alors que j'étais au service, on m'a appelé parce que mon père a fait accident, il s'est retrouvé à l'hôpital. Donc, on avait besoin de l'argent, j'ai envoyé l'argent. C'était vers la soirée. Donc, le lendemain, à 8h, j'étais au boulot quand on m'a appelé que l'argent que j'avais envoyé, ils n'ont pas reçu l'argent là. Donc, je suis allé vers mon chef d'équipe pour l'expliquer que donc, il n'a qu'à me donner la permission pour que je puisse courir juste dans l'agence à côté où j'avais envoyé de l'argent pour voir pourquoi le chef d'équipe refuse. Je vais vers le contrôleur blanc et je dis qu'il refuse parce que il y a la loi qui dit que quand l'ouvrier rentre dans le travail, il ne sort qu'après la fin de son heure. Donc, si je quitte le boulot, bien avant l'heure, je serais considéré comme un démissionnaire. J'ai tout fait. Ils ont refusé. J'étais obligé maintenant de quitter avec force pour partir quand mon portable a sonné. C'est l'agence où il y avait envoyé de l'argent qui m'appelait pour s'excuser que donc ils avaient eu un souci de connexion et l'argent n'était pas passé. Ils voulaient voir comment ils peuvent faire. Et c'est là que j'ai remis l'argent, le numéro sur lequel on devrait transférer l'argent et ils l'ont fait. Et malgré tout ça aussi, ce que j'ai dit, quand vous arrivez, c'est-à-dire nos droits sont foulés et quand nous réclamons, on ne satisfait pas. Soit vous faites la grève et c'est les corps à pied qui viennent avec le garde et on vous disperse et puis c'est fini. Soit vous voulez persévérer, vous vous trouvez derrière les barreaux ou bien bon. Vous pouvez déjà prendre le mieux. Merci.
Si je résume, donc Kadjaké, vous avez déjà des problèmes de paix avec cette entreprise, vous avez une urgence familiale qui vous imposait de sortir de votre cadre de travail le temps d'un instant, ça vous a été refusé, donc on sent la pression de votre employeur, vous dites vous-même que vous auriez été considéré comme démissionnaire si vous quittez votre poste, vous avez négocié mais ça n'a pas marché. Effectivement, Amandine Ruas, je vous pose la question à vous, quand on a un problème au travail, on se dit qu'on peut négocier avec son employeur. Il y a des fois, en revanche, l'employeur va rester sourd à nos revendications, à nos besoins. Là, en plus, c'était visiblement une urgence familiale. Dans ce cas-là, démissionner, c'était la seule solution.
En fait, excusez-moi, tout va dépendre, si vous voulez, de la capacité de l'employeur à être à l'écoute et à entendre la demande. Il y a des employeurs qui vont véritablement veiller à ce que les employés aient un équilibre de vie qui leur correspond, vont également veiller à pouvoir répondre aux demandes, aux difficultés rencontrées par les salariés. Il y a des employeurs qui travaillent encore d'une façon peut-être autoritaire, un peu à l'ancienne, qui n'acceptent pas de laisser place à la vie personnelle des salariés en milieu professionnel. Pour moi, il y a en fait le nerf de la guerre est finalement la communication, c'est-à-dire la capacité à faire valoir sa demande auprès de l'employeur. Maintenant, quand l'employeur ne souhaite pas entendre, malheureusement, très souvent, on se retrouve face à un mur. Et dans ces cas-là, c'est important de devenir responsable de soi-même et d'être capable de mettre des limites et donc de prendre sa carrière en main en partant.
Ouais. Je suppose, Kadjaké, que ça n'a pas été une décision facile à prendre. Vous aviez un plan B quand vous avez démissionné. Vous saviez que vous allez pouvoir être embauché ailleurs.
Oui, c'est ce que il a essayé de faire. Donc, quand j'ai démissionné, j'ai pu trouver un petit job chez un monsieur où je me débrouillais. Et c'est ça qui m'aidait même. Et je suivais une formation pour pouvoir la joindre avec ce que j'avais déjà comme diplôme. Voilà que quand Corona est venu, à cause des fermetures de choses, le monsieur est retourné en Europe. Et puis bon. J'ai perdu le boulot comme ça. Actuellement, j'ai fait les dépôts et je suis dans l'attente.
Donc vous êtes au chômage en ce moment, c'est ça ?
Mais c'est ça.
Mais est-ce que vous regrettez avec le recul la décision que vous avez prise ? Bon, évidemment, vous ne pouviez pas prévoir la pandémie de Covid et les conséquences que ça a eues ensuite, mais est-ce que vous regrettez cette décision ou finalement vous vous dites c'était nécessaire ?
Non, je ne regrette pas. Parce que pourquoi ? Ce que je réclame et on ne me donne pas. Le mieux, parce que pourquoi ? Si je continue à retourner ou bien je continue à forcer que je veux mes droits et je perds ma vie.
Oui, c'était important pour vous de rétablir cet équilibre-là entre votre travail et votre vie privée. Merci beaucoup Kadjaké de nous avoir appelé pour témoigner. Un grand bonjour à vous et à tous ceux qui nous écoutent du Togo. Merci de nous avoir appelé. Maëlik Bigi, question pour vous. On a l'impression aussi, dans ce que nous dit Kadjaké, qu'il y a un certain manque d'empathie de la part de l'employeur. Est-ce que ce sont de nouvelles techniques de management qui sont enseignées en école ? C'est manager autrement, en fait, être à l'écoute ou toujours pas ?
Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ce qui est enseigné dans les écoles de commerce, mais en tout cas, ce que je peux dire pour rebondir là-dessus, c'est que dans les secteurs qui sont en tension actuellement, c'est-à-dire qui ont du mal à recruter, les employeurs qui s'en sortent le mieux sont ceux qui font des efforts dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et d'emploi des salariés. Donc notamment du côté, bon, pour les secteurs avec des bas salaires, du côté de la rémunération. Après, si on va plutôt du côté des professions intermédiaires, une des grosses revendications, c'est ce qu'a dit notre auditeur, c'est une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, le hors-travail. Et puis, pour les cadres, c'est vrai qu'on entend plus cette revendication de sens qui, bien souvent, en fait, et c'est ce que vous avez dit aussi, c'est bien souvent derrière cette revendication de sens, il y a un enjeu de souffrance et du coup de santé au travail, en fait. Souvent, l'épuisement professionnel peut passer par une expression d'une quête de sens, de revendication de sens.
Alors on va reparler plus longuement dans cette émission de ce qu'on peut mettre en place aussi côté employeur et côté employé pour rétablir cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Mais d'abord on part à Thiès au Sénégal. Bonjour Arfang.
Okay.
Arfang, vous m'entendez ?
Bonjour.
Oui, bonjour. Vous avez un autre témoignage en ce qui concerne la façon dont vous vivez votre travail. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous faites et si vous vous sentez épanoui dans ce que vous faites, Arfang?
Bonjour à tous les voisins. Merci à RFI. Voilà, je m'appelle Arfang Sek, inspecteur de l'éducation et de la formation de la ville de Thiès. Je suis chef de circonscription scolaire. Nous gérons les structures scolaires de la maternelle au collège en passant par l'élémentaire. Et nous sommes dans des dispositifs d'encadrement, d'accompagnement des écoles et des structures de formation, les centres de formation, les DARA, Morel. Et voilà, c'est quelque chose que nous exerçons avec beaucoup de passion même, je dirais. Nous sommes heureux et voilà, très enthousiastes à le faire. C'est un métier que nous avons embrassé par passion et par vocation.
C'était important pour vous, Arfang, de choisir un métier passion ?
Oui, voilà, je suis entré dans l'enseignement par passion, par vocation. Je suis né dans un milieu enseignant, mon père est enseignant, ses frères. Voilà, j'ai grandi dans un bloc administratif en ville où logeaient les enseignants. Par la suite, mon père a déménagé dans une cité des enseignants. Voilà, donc nous avons grandi dans un milieu d'enseignants et par passion, par vocation, nous sommes entrés dans le métier et ça nous a plu. D'instructeur, je suis passé à inspecteur et aujourd'hui inspecteur chef de circonscription. Ça me passionne beaucoup que de prendre mon cartable, d'aller dans les écoles pour encadrer les enseignants. Pour donner la bonne parole.
C'est intéressant, que vous parliez de vocation, justement, Arfang, puisqu'on entend souvent, quand on parle en tout cas des professeurs et du corps enseignant, qu'il y a justement une crise de vocation, que les professeurs, les enseignants ont de plus en plus de mal déjà à vivre leur métier. On a reçu d'ailleurs un message d'Achille de Douala au Cameroun qui nous parle des conditions de travail difficiles entre le salaire qui est bas, le retard de paix, la charge de travail et puis la situation qui s'est évidemment compliquée avec le Covid, les cours à distance, quand les cours à distance peuvent en tout cas se faire, ou des enseignants parfois mis au chômage technique puisqu'il n'y a pas de cours en ligne, pas de télétravail possible. Vous qui justement encadrez des professeurs et des enseignants, qu'est-ce que vous pourriez répondre à un professeur qui nous écouterait et qui en a ras-le-bol et qui se pose la question de la démission ?
Vous savez, il n'y a rien de plus désobligeant que d'exercer quelque chose qui ne nous intéresse pas. Ce n'est pas bon et ça peut même mener à des maladies en passant par le stress. Et notre vedette nationale internationale, Youssou N'Dour, avait déjà chanté en disant « Ligue donne son compagnon, il faut faire une gueule chez Niaou ». C'est-à-dire que si vous êtes dans quelque chose et que ça ne vous intéresse pas, ça veut dire que vous n'êtes pas dedans. Et si vous n'êtes pas dedans, c'est désobligeant. Donc, en tout cas, quand ça passionne, là, nous avons tout l'engagement, tous les intérêts pour aller à fond et servir. C'est de ça qu'il s'agit, quoi.
Mais ce que je veux dire, c'est que la passion peut être présente pour certains enseignants, mais si derrière, les conditions de travail sont rendues très difficiles, certains se disent « ça ne sert plus à rien, je suis beaucoup beaucoup pas, enfin peu payés pour ce que je fais. Certains, comme je vous dis, sont au chômage technique parce que le télétravail est pas forcément possible pour les professeurs. Les cours en ligne sont compliqués à mettre en place. Certains en ont ras-le-bol. Vous pensez alors qu'il y a une perte d'intérêt et qu'il faut qu'ils se reconvertissent?
Si le cas se pose, moi je vais inviter à passer à tout cela qui sont là aux portes des concours, qui tapent aux différentes portes pour entrer dans le métier. Parce que si vous êtes là, vous avez déjà la chance d'être présent. Et pensez à ceux-là qui se présentent au concours et qui ne réussissent pas. Parce que moi, j'en connais plusieurs. Si on leur donnait des postes avec un salaire inférieur, mais ils allaient prendre. Parce qu'ils veulent s'occuper de s'épanouir et s'occuper de leurs parents, de leur famille et autres. Donc, exercer un métier avant tout, il faut l'aimer. Surtout le métier d'enseignant. Si on ne l'aime pas, là, on ne peut pas faire de résultats. Ça, il faut aller vers l'amour. Et maintenant, y a toujours des opportunités, hein, y a toujours des possibilités. Il ne faudrait pas laisser baisser les bras à chaque fois. Et il faudra penser à développer des stratégies et en accompagnant l'État. L'État, ici au Sénégal, pendant la COVID, avait mis un dispositif « apprendre à la maison ». Et ça a permis aux enseignants de découvrir qu'avec toutes les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et depuis lors, nous nous appuyons là-dessus, parce qu'à l'époque, nous avons organisé des réunions en ligne avec nos directeurs, nos chefs d'établissement, et depuis lors, on a vu des enseignants qui ont même créé des groupes WhatsApp avec leurs élèves pour leur donner des devoirs, des exercices, des corrections, et tout ça, c'est un gain de temps. C'est des opportunités qui sont là, qui sont exploitées.
Donc si on aime ce métier, on s'accroche et on prie pour que l'État soit derrière nous pour nous épauler un petit peu. Merci beaucoup, Arfang, de nous avoir appelés.
Merci beaucoup et merci à tous les voisins. Merci RFI, merci.
Merci Arfang. Amandine Ruas, toute petite question pour vous. Vous accompagnez les professeurs aussi?
Alors, de façon assez étonnante, enfin, en tout cas personnellement, j'ai été surprise. Je me suis retrouvée avec de plus en plus de professeurs parmi mes clients. C'était une population que je n'avais pas parmi ma clientèle jusqu'en 2020. Et depuis la crise Covid, j'ai à peu près 8% de mes clients qui sont constitués par le professorat.
Qu'est-ce qui vous explique? Qu'est-ce qui vous raconte?
Alors, j'entends énormément la désillusion de jeunes qui se sont engagés vers l'enseignement pour transmettre, pour apporter, pour faire grandir, et qui se retrouvent limités par le manque de moyens, par des classes beaucoup trop importantes, et par l'impossibilité aussi de mettre en place des techniques d'enseignement et des techniques pédagogiques innovantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc il y a une forme de frustration dans le manque de latitude qu'on peut avoir.
Peu d'initiatives possibles, ouais, en fait.
Exactement, peu d'initiatives, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a la mobilité imposée qui est lourde également, de ne pas pouvoir choisir le lieu de travail. Et enfin, la question du salaire. Donc le tout se cumulant, ça crée beaucoup de frustration et ça remet souvent en question la vocation initiale.
On va poursuivre notre discussion dans quelques instants, mais d'abord on écoute le premier single de Roman, c'est Fantasy sur RFI. I saw your eyes, my rock, my pillar. At first, but soon it was the same trouble in that bubble. Burst. This ain't going nowhere. Fiction in the air. Do you even know how to care? What am I doing? This is fantastic.
And now you're out my head. Fiction in
Vous écoutez 8 milliards de voisins sur RFI pour une émission consacrée aujourd'hui à l'épanouissement au travail. Maëlle Ezik, Biji, sociologue et co-autrice de Travailler au XXIe siècle, des salariés en quête de reconnaissance chez Robert Laffont, et Amandine Ruas, fondatrice de Be Your Best Self, qui coach des particuliers et des entreprises, notamment sur les sujets d'épanouissement au travail, sont nos deux invités. Le numéro WhatsApp que je vous rappelle, si vous souhaitez nous raconter comment vous vous sentez au travail, c'est le 33 7 64 45 51 41. Maëlle Ezik Biji, vous qui avez étudié ce phénomène, on parlait tout à l'heure des États-Unis, des démissions en France qui étaient peut-être un petit peu moindres par rapport à ce qui a été en tout cas médiatisé aux États-Unis. Est-ce qu'on démissionne partout dans le monde ou est-ce que c'est plutôt un phénomène occidental ou urbain?
Alors j'aurais du mal à vous répondre. Principalement pour des raisons de chiffres, en fait. Enfin, moi, j'ai pas eu accès et je suis pas sûre qu'il y ait des chiffres qui soient comparables, en fait, entre tous les pays. Les démissions en sortie de crise, on voit que, en tout cas, en Europe, aux États-Unis, c'est un phénomène classique. À nouveau, ce qui varie, c'est est-ce qu'il y a retrait ou non du marché du travail. En France, c'est pas le cas. On a un taux d'emploi qui a jamais été aussi élevé en 2021.
Oui, c'est pas mal paradoxal.
Donc, voilà, c'est plus de la rotation, en fin de compte, que de la grande démission, du refus du travail.
Et on va partir tout de suite à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour retrouver Agnella Vekwaku. Bonjour Agnella.
Bonjour Amélie, bonjour aux invités, bonjour aux voisins, voisines.
Alors racontez-nous Agnella, comment ça se passe en Côte d'Ivoire? Vous ressentez aussi, vous, de votre côté, un désintérêt professionnel, une quête de sens de la part des salariés?
Alors, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que le marché du travail, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, va poser d'importants défis, hein, tant dans le fonctionnement, dans les caractéristiques, que dans les indicateurs qui sont généralement utilisés pour l'analyser. Donc, il y a de nombreux secteurs qui sont informels, il y a de nombreux emplois qui sont disponibles, et ce sont aussi souvent des auto-emplois, avec un niveau de sous-emploi qui est quand même assez élevé. Donc moi, je vais donner l'expérience et l'avis côté consultant RH, côté chasseur de tête, ce que je suis, donc sollicité par des entreprises et puis même souvent des particuliers qui vont rencontrer des problématiques organisationnelles, humaines. Donc aujourd'hui, déjà, pouvoir exercer, pouvoir trouver du travail sur le continent en Côte d'Ivoire, c'est un défi. Mais une fois qu'on arrive à toucher cet objectif du doigt, effectivement, fait place à la quête de sens, oui.
On entendait tout à l'heure un auditeur qui était au Togo qui nous disait justement que lui, c'était pas tellement cette quête de sens. Enfin, si, ça peut être rapproché aussi à la quête de sens. C'était plutôt l'absurdité que l'employeur, en tout cas, soit à ce point un mur et à ce point en manque d'empathie par rapport à ce qu'il traversait. Comment est-ce que vous définiriez les relations entre employeurs et employés? Est-ce qu'on a facilité là où vous vous trouvez, Agnella, et avec les gens que vous conseillez, à dialoguer, à négocier avec son employeur?
Effectivement, quand on sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus conscience que ce qui fait l'entreprise, ce qui fait un projet, c'est finalement la première richesse, c'est-à-dire l'homme qui accepte de donner son temps, qui accepte de donner son énergie et qui accepte quelque part de donner sa vie, et qu'il y a aussi ce phénomène donc de marque employeur qui n'est autre que l'image finalement d'une entreprise, plus au regard des produits qu'elle commercialise, mais des collaborateurs et des salariés qui sont en interne, oui, les entreprises vont être de plus en plus, on va dire, à l'écoute aussi des réalités de leurs collaborateurs. Après, ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est sûr, Et il faut aussi se rappeler que trouver du travail sur le continent, trouver du travail en Afrique de l'Ouest, c'est pas évident. Il faut aussi prendre en compte les catégories, tout ce qui va être catégorie ouvrière, agents de maîtrise, cadres qui ne connaissent pas forcément les mêmes réalités, et puis les secteurs d'activité également. Mais de plus en plus, les employés arrivent à se faire entendre, hein, avec une jeunesse aussi qui arrive, et puis, juste pour vous faire sourire, qui se qualifie elle-même de génération pressée-pressée, comme on dit chez nous.
Une jeunesse qui, j'espère, pourra faire bouger un petit peu la situation. Amandine Ruaz, vous qui conseillez aussi des entreprises, qu'est-ce que concrètement l'employeur peut mettre en place pour améliorer le bien-être de ses salariés ?
Oui, aujourd'hui, il y a vraiment une démarche de la part de nombreuses entreprises de proposer aux salariés des accompagnements. Des accompagnements à mieux gérer leur équilibre professionnel et personnel, à mieux gérer leur confiance en eux, à mieux communiquer, à gérer le conflit au travail. Moi, j'ai vu pas mal d'entreprises qui, pendant le Covid, mais aussi après, puisque ça a continué, ont mis en place des webinars à disposition des salariés, ont fait intervenir des coachs.
Les webinars, c'est une espèce de séminaire en ligne ?
Exactement, des séminaires en ligne à destination de l'ensemble des salariés. Moi, en tant que coach, j'ai eu l'occasion de beaucoup intervenir suite au Covid en entreprise sur ce type de thématique. Et je trouve aussi que les managers sont mieux formés qu'auparavant. Avant, on considérait que le management était un peu la suite logique d'une carrière linéaire. Aujourd'hui, on se rend compte que des compétences managériales, ça se travaille, ça se développe. Et on équipe les managers justement à avoir plus d'empathie, plus d'écoute et à veiller aussi à l'équilibre de leurs salariés. Donc, je trouve qu'on équipe mieux qu'auparavant dans de nombreuses entreprises, même si ce n'est pas le cas partout.
C'est plutôt du côté de l'accompagnement que du côté... Je sais qu'il y a quelques années, quand on parlait d'entreprises qui traitaient correctement leurs salariés, on voyait des aménagements, par exemple, de salles de détente avec, j'en sais rien, un baby-foot, ce genre de choses, pour pouvoir organiser des pauses plus récréatives pour les salariés. Mais c'est un leurre, ça, finalement, c'est pas...
Moi, je crains toujours que ce soit un peu cosmétique, comme un pansement pour cacher, en effet, le fait qu'il y a des conditions de travail difficiles. Quand les salariés sont épuisés, c'est pas le fait d'avoir un baby-foot qui va éviter le burn-out.
Agnella Vekwaku, justement, est-ce que vous accompagnez, vous, des employés qui ont des requêtes spécifiques à faire passer à leur employeur et qui n'y arrivent pas ? Comment est-ce que vous les conseillez pour qu'ils puissent se faire entendre dans leurs différentes revendications, que ce soit une augmentation de salaire, que ce soit un temps de pause ou un besoin d'éloignement du travail pour une urgence familiale, comme on l'a entendu tout à l'heure, ou pour d'autres raisons ?
Alors, pour répondre de manière très directe, je dirais la communication. La communication, elle est essentielle, vraiment. Mais avant ça, c'est aussi très important de se connaître. Il a été évoqué tout à l'heure la crise pandémique en 2020. Vous savez, pour nous, ça a été l'année où on a eu le plus de demandes de bilan de compétences de la part de particuliers qui, le temps de la pause, ne se voyaient pas repartir comme avant dans leur environnement professionnel. Donc, se connaître, savoir quelles sont ses priorités, quelles sont ses valeurs, c'est vraiment quelque chose en fait d'essentiel pour ne pas aller, je veux dire, dans un environnement professionnel par hasard et puis subir en fait finalement son quotidien. Mais pour revenir à la question posée, la communication, elle est essentielle. Et en général, une entreprise, qu'est-ce qu'elle souhaite ? Elle souhaite le profit, c'est vrai. Donc, ne perdons pas de vue que quand même, ce qu'on attend en fait finalement du collaborateur, du salarié, c'est qu'il soit performant. Donc, essayez de faire le maximum pour... ne serait-ce répondre aux attentes de sa fonction, sinon les dépasser, mais amener aussi la communication pour justement montrer qu'on est un élément qui compte, en fait. Hein, ça pèse, en fait, finalement. Et ça permet, ça peut inciter l'employeur à écouter les revendications, ce qu'on a à lui partager comme réalité. Parce que n'oublions pas qu'un recrutement qui fonctionne, c'est un recrutement où des réalités s'embrassent véritablement sur la durée.
Maëlézic Bigy, est-ce que vous avez en tête des exemples d'entreprises bonnes élèves dans ces nouvelles pratiques qui mettent l'employé sur le premier plan ? On parlait souvent, peut-être à tort, hein, mais des très très grosses structures qui mettent en place des ateliers d'accompagnement, par exemple, vous le disiez à Montigny-en-Rouge, etc. En revanche, on a appris par exemple que c'est pas parce qu'on a une très grosse structure et qu'on a des moyens de mettre en place, parce que je suppose que c'est un coût aussi pour une entreprise de mettre en place ce genre de choses. De très grosses entreprises comme Amazon, par exemple, rendent visiblement leurs employés assez malheureux en fin de compte. Hein. On a près de 8 milliards de dollars, c'est les frais de démission. C'est ce que les démissions ont coûté à Amazon, en tout cas l'année dernière. Il y a des entreprises qui s'en sortent mieux que d'autres.
En fait, ce qu'on voit, et d'ailleurs on enquête avec des collègues là-dessus, notamment pour la question des risques psychosociaux, ce qu'on voit, c'est que les employeurs ont tendance à utiliser le plus souvent des dispositifs individualisés d'accompagnement qui, en gros, hein, pour simplifier, visent à adapter la main-d'œuvre au risque du travail, plutôt qu'à changer ou diminuer les facteurs de risque, ce qui correspondrait en fait à agir sur les conditions de travail. Et donc, soit on va dans cette direction-là, donc par exemple, ça va être proposer des séances de sophrologie ou faire des formations à la gestion du stress, qui sont une façon de renvoyer à l'individu ou de mieux l'équiper, mais en tout cas, on demande à l'individu de mieux faire avec la situation sans forcément viser à la changer. L'autre façon de faire, et j'ai pas forcément d'exemple en tête, ce serait de se dire qu'on va collectivement travailler sur les conditions de travail de sorte que ces facteurs de risque diminuent. Par exemple, dans le secteur du soin ou de l'éducation, on peut former des enseignants ou les infirmières à mieux faire avec leur souffrance au travail, mais le fait que les moyens diminuent, que le contrôle gestionnaire s'accroisse, fait que ces gens qui sont entrés dans ce métier par vocation, justement pour le sens, en dépit parfois des rémunérations, enfin disons en connaissance de cause au niveau des rémunérations, ne parviennent plus à trouver ce sens dans leur activité. Et du coup, tout s'écroule d'un côté, ce qui peut expliquer les raisons pour lesquelles vous avez de plus en plus d'enseignants, pourquoi pas un jour des infirmières ou même des médecins hein, qui viendraient vous trouver pour envisager une reconversion.
De votre côté, Agnella, est-ce que vous avez aussi des employeurs comme ça qui sont en demande de conseils de votre part pour améliorer les conditions de travail de leurs employés qui sont conscients du problème et qui essaient de faire un effort et qui ne savent pas forcément quoi mettre en place, à part cette communication dont vous parlez et qui est essentielle?
Effectivement, et merci de m'interroger là-dessus, parce que quand même, ma réalité, en fait, hein, c'est de constater que les entreprises et les clients viennent nous voir en général un peu en mode pompier, en mode réaction plutôt que d'anticiper. C'est-à-dire que quand elles vont vivre en fait finalement l'effet d'une marque employeur qui n'est pas du tout soignée de leviers qu'elles pourraient activer mais qu'elles n'activent pas et que finalement elles ont payé les frais, c'est un peu au secours, comment est-ce qu'on fait maintenant pour repartir et qu'on redevienne performant. Donc moi je voudrais inciter à changer finalement de posture et de ne pas attendre que les dégâts arrivent pour chercher à penser en fait un peu les choses. Après effectivement, il nous est demandé souvent tout ce qui va être accompagnement, évaluation, en fait finalement d'être à l'écoute des attentes, des motivations affirmées, des fois même pas affirmées des collaborateurs pour identifier clairement les leviers qui sont à activer pour pouvoir repartir ensemble. Donc ça passe par donner du sens au travail, ça passe forcément par valoriser le travail, les collaborateurs, ça passe par essayer d'accorder donc de l'autonomie et faire confiance, c'est pas forcément toujours évident, mais certains collaborateurs ont vraiment besoin de ça. Et puis aussi créer donc un environnement de travail sain hein, avec les valeurs, avec, on en parlait tout à l'heure, le respect de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle qui est de plus en plus important. Tout ce qui va être rémunération et avantages, et quand on n'est pas en capacité de pouvoir augmenter une rémunération, monter un salaire ou donner des avantages, expliquer pourquoi ? Vraiment communiquer en fait, hein, en plus d'assurer la sécurité et d'encourager vraiment la bienveillance en fait hein, au sein de l'entreprise. Donc ne plus agir comme des pompiers et puis essayer d'être un peu plus proactif et bienveillant vis-à-vis des collaborateurs, ça paie et ça permet la performance. Et j'aimerais vraiment citer Dan aussi Harrison, qui est un docteur en psychologie et également en mathématiques, hein, qui connecte la notion de plaisir au travail et qui va, en fait, qui, via un questionnaire que j'utilise, mesure des tendances comportementales, les intérêts, les préférences qui sont essentielles et qui font la différence, finalement, quand on est en exercice professionnel. Il montre qu'on a tendance à être performant dans une tâche ou un comportement qu'on aime. En général, ce que j'aime, je le répète, via la pratique, je m'améliore, je deviens performant et je deviens un référent. Et le retour est positif, en fait, de mon entourage et de ma hiérarchie, et ça augmente le plaisir. Donc, en fait, finalement, ça, c'est vraiment le petit conseil, le petit partage pour toutes celles et ceux qui s'interrogent, qui ont conscience que bah, tous les matins, quand ils se lèvent, c'est leur vie qui passe, et de se dire que bah, c'est possible quand même quelque part de se lever, de réaliser des missions qui nous réalisent soi-même.
Oui, c'est un petit peu l'inverse de la démission silencieuse dont on parlait tout à l'heure. Il y a des chercheurs canadiens qui ont justement théorisé ce concept qui s'appelle, je crois, le job crafting. Ou alors, certes, on n'est pas heureux dans le poste qui est le nôtre, mais on est conscient des compétences qu'on peut avoir sur d'autres petites missions et on essaye de les mettre en valeur. Je vais dire une bêtise, si on sait qu'on a des compétences en infographie, on va essayer d'en faire un petit peu plus de ce côté-là, même si ce n'est pas forcément ce qu'on nous demande. Ça peut être une bonne technique, ça, Amandine Ruas?
Oui, complètement. C'est quelque chose qui est en train de se développer dans les entreprises, la possibilité de laisser aux salariés davantage de latitude sur des projets ou des missions qu'ils leur tiennent à cœur et dont ils peuvent se saisir si leur management est d'accord.
Et pour lesquels ils n'étaient pas forcément embauchés au départ.
Exactement. Et moi, je dis même aux personnes que j'accompagne pour la partie des entretiens d'embauche, quand ils ont le profil pour un poste, de ne pas hésiter lors de l'entretien à proposer éventuellement, s'il est possible, de faire des missions supplémentaires ou d'avoir une autre partie du job. Dans la notion de job crafting, il y a un petit peu cette notion de dessiner son travail. Et ça peut se commencer dès l'entretien. Si c'est pas possible, l'employeur le dira. Mais des fois, l'employeur aurait tout à gagner de savoir dès le départ que le salarié a envie d'aller au-delà de ce qui est proposé sur la fiche de poste.
Maëlle-Ézic Bigy, à ce propos, est-ce que vous pensez qu'on va justement vers des espèces de jobs à la carte où on choisit un petit peu ce qu'on peut faire et des missions qui sont dessinées en fonction des employés et pas des fiches de poste pour lesquelles on embauche quelqu'un ?
Je ne saurais pas trop vous répondre là-dessus, mais c'est vrai que cette question-là des parcours professionnels se pose de plus en plus, en tout cas. Enfin, parcours professionnels dans l'entreprise, de pouvoir
mobilité
changer
interne.
De mobilité dans l'entreprise, mais aussi hors entreprise, puisque les parcours se font, les carrières se font de moins en moins auprès d'un seul employeur. Ces histoires de parcours professionnels, ça pose la question des moyens qu'on donne collectivement à la force de travail, aux salariés, enfin aux travailleurs d'une manière générale, pour penser leur parcours. Donc là, on peut citer les bilans de compétences, qui est un outil qui a été très, très utilisé juste après la pandémie, avec un nombre de demandes qui a explosé, même si, pareil, on a toujours un petit peu de problèmes d'antériorité sur les chiffres. Et puis, ça pose aussi la question, finalement, du financement de l'assurance chômage, puisque ces parcours passent par des périodes hors emploi. Donc, il faut savoir comment on peut être financé. Est-ce qu'on a les moyens de repenser son parcours professionnel. Et ça, les travailleurs sont tout à fait inégaux, inégales face à ces parcours. Les cadres sont beaucoup mieux armés que les ouvriers qui ont aussi envie de changer parfois.
Il y a aussi quelque chose sur laquelle on ne s'est pas forcément arrêté, c'est évidemment le télétravail qui peut contenter certaines personnes comme mettre en colère d'autres personnes, puisque la frontière entre où est-ce que s'arrête le travail quand on l'amène à la maison peut être évidemment un petit peu floue. Amandine Ruas, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui aimeraient avoir une segmentation très précise entre le travail qui ramène à la maison et puis la vie privée? Ça peut être très facile de se laisser déborder dans ce cadre-là.
Oui, complètement. Les barrières entre vie personnelle et travail deviennent très poreuses avec le télétravail. Moi, ce que j'ai envie de conseiller, c'est de pouvoir avoir un lieu dédié au travail qui ne soit pas confondu avec les lieux de vie personnelle. Alors, si ça ne peut pas être une pièce spécifique liée au télétravail, parce que bien évidemment, tout le monde n'a pas cette place-là dans son appartement, ça peut être simplement de dire, sur cette table-là, c'est là que je travaille. Et inconsciemment, ça permet de dédier ce lieu au travail et de ne pas le confondre avec d'autres parties de la vie privée. Ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai tendance à dire que c'est extrêmement important de couper l'ordinateur, le téléphone personnel, quand la journée de travail se termine. Et même éventuellement de mettre en place un petit rituel de fin de journée. Ça peut être aller chercher les enfants à l'école, ça peut être une balade, ça peut être aller au sport, ça peut être commencer la cuisine. Mais simplement, chaque fois, le soir, quand on termine sa journée de travail, de démarrer par le même rituel, parce que le cerveau adore les automatismes, adore les rituels, et ça permet comme d'enclencher inconsciemment le signe que ça y est, la journée de travail est finie. Donc ça peut être une petite astuce qui fonctionne très bien.
Une petite astuce pour la fin de cette émission. Merci beaucoup Amandine Reas d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup à vous également, Agnella, d'avoir répondu à nos questions depuis Abidjan. Et merci Maëlik Biji d'avoir répondu à nos questions. On se quitte avec Didi B, chanteur ivoirien, et En haut sur RFI.
Moi-même le sang manque, ils sont là pour critiquer tout ce que tu fais, ils vont parler. Ils sont là pour dénigrer, ils vont jamais t'encourager. Mais pour me rabaisser, ils sont toujours premiers, de m'empêcher de briller. Ils vont pas y arriver parce que pour nous là c'est en haut. Je peux pas comprendre, c'est autre chose. Le boss au réveillé a dit d'être un miracle. Maman la main, maman Ninandri. Allez, un, deux, acheteur. La petite a ramené ses copines. On vient pour faire danser ta voisine. Dans pays, y'a pas besoin de tontine.
Aïe, les mamans, les petites veulent du paye. Nagana est dans la boîte.
Moi j'avais lié avec JR.
J'ai chié la mélodie. Dis avec moi j'avais lié. Batala maudit. Après des voyages, vous descendez. Batala maudit. Après des voyages,
ils sont là pour critiquer tout ce que tu fais, ils vont parler. Ils sont là pour dénigrer, ils vont jamais t'encourager. Mais pour me rabaisser, ils sont toujours premiers. Ne m'empêcher de briller. Ils vont pas y arriver parce que pour nous là c'est en haut.
La
fille italienne a dit pour les milliardaires. Si papi les vitesses, Charlie, Charlie la puissance. Junior dollars, yeah. Ibrahim et Fama Diabaté. Yanné Emmanuel Idri, Epiphane et André.
Là-bas tu vas te faire péter un câble. Là-bas tu vas te faire péter un câble.
À ça la cape, on guita pas les deux blocs, tu as la pointe. Tu vis papillon, guita pas les 15 bagues de ta pointe. T'as beaucoup d'argent, donne-moi.
T'as pour écouter maman.
Laisse pas passer.
Didi B sur RFI et 8 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Divine Berthou, Zeynaba Diallo, Damien Roucou, Romain Dubrac et Didier Chérouze. Demain, objectif mémoire, on fera le tour des méthodes qui permettent de retenir plus facilement. Avec nous, la formatrice et psychologue Hélène Weber et le champion de France de mémorisation. Ils nous donneront leurs conseils, leurs meilleures méthodes pour réussir à tout retenir. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant sur notre page Facebook ou sur notre WhatsApp, le numéro c'est le 337 64 45 51 41. À demain, même heure sur RFI.